Il est 9h41, démarrage en trombe de l'instant M.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Mais comment un petit Français de 29 ans est-il devenu une vedette de la télévision sud-coréenne? Tout, vous saurez tout sur les stars de la K-pop et sur l'ère du Kukbang, les deux recettes à succès du petit écran coréen, à savoir les groupes de musique ultra formatés et les émissions de cuisine. Bonjour Fabien Yoon.
Bonjour.
Bonjour aux Coréens, on dit.
안녕하세요.
Et bon appétit.
맛있게 드세요.
Voilà, vous publiez aux éditions du Chêne votre livre de recettes. Il est fort joli. Vous serez notre plat de résistance, Fabien. Et en guise d'entrée de l'actu média et la fin d'un journal associé à tous nos souvenirs d'enfance, d'expos et de ciné, nous les Parisiens. Jean Stern, bonjour.
Bonjour Sonia.
Et pas en coréen. Hein.
Non, pas en coréen.
Pas en coréen. Mal. En parisien, voilà.
En parigo.
L'instant M. Le rendez-vous média de France Inter.
I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
Whatever you want.
Grab them by the pussy.
NBC News announced last night that Billy Bush would be leaving the Today Show effective immediately. All of us here at Today wish Billy the very best.
Alors, lors du fameux enregistrement dans un bus où l'on entendait Donald Trump parler des femmes comme un goujat, le candidat n'était pas seul, mais en discussion avec un animateur télé, hilar, Billy Bush, figure de la chaîne NBC, accessoirement neveu de George W. Bush, ancien président des États-Unis. Eh bien, Billy Bush vient d'être licencié. Retour en France, Maxime Saada, qui est le directeur général du groupe Canal+, reçoit ce matin les salariés de sa chaîne info iTélé, prochainement rebaptisée CNews. En grève, vous le savez, on vous l'a raconté depuis lundi. Les équipes appellent à un rassemblement tout à l'heure, à 13h, devant leurs locaux, pour, je cite, « défendre les valeurs du journalisme ». Et pendant ce temps-là, France Télé a signé un accord avec Amaury Sport qui détient les droits du Tour de France. La petite reine jusqu'en 2025 sur vos chaînes publiques, ça laisse le temps de venir voir pédaler. De son côté, l'équipe révélait hier que TF1 qui veut limiter ses frais et M6 qui réalisa ses records d'audience grâce à l'Euro devraient se partager prochainement les matchs de foot des Bleus entre 2018 et 2022. Fabien Yoon, avant Séoul, vous viviez à Paris ?
Paris, oui.
Est-ce que vous vous souvenez du Pariscope ?
Je me souviens en effet du Pariscope, oui.
Est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait deux types de familles à Paris ? Les familles où on achetait l'officiel des spectacles.
Exactement.
Et les familles où on achetait le Pariscope.
Exactement.
Et vous, c'était quoi ?
L'officiel des spectacles.
Moi aussi. C'est ce que j'achetais mon papa quand j'étais petite. Allez, Jean Stern, encore un titre de presse qui disparaît après 50 ans de bons et loyaux services. Pariscope publie son dernier numéro.
Oui, Sonia, il avait été lancé en octobre 1965 par Daniel Filipacchi, le dernier véritable créateur de presse que notre pays ait connu. Avec son logo aux lettres rondes qui n'a pas changé, ce petit hebdo fut l'un des pionniers du format Deep Pocket, c'est-à-dire 16 cm de haut sur 12 cm
voilà,
de large.
Qui rentre dans la poche. Hein.
Qui rentre dans la poche. Pariscope fut donc, on vient de le dire, l'une des deux bibles à la fois des Parisiens mais aussi des provinciaux en visite à Paris. On le trouvait dans les kiosques de la capitale mais aussi dans ceux des gares de province. J'ai connu des Marseillais ou des Strasbourgeois qui préparaient leur montée à Paris avec Pariscope ou l'officiel.
Voilà, l'officiel des spectacles, donc c'est l'autre hebdo, hein, on l'a dit, Paris. De programme qui va continuer à sortir.
Ouais, mais honnêtement, ouais,
pour combien de temps. C'est ça,
hein.
Voilà.
Ces titres sont l'ombre de ce qu'ils ont été, poussés vers la tombe par Internet où l'on trouve d'un clic les expos, concerts et séances de ciné. Pariscope ne diffusait plus que 28 000 exemplaires l'année dernière et ses ventes avaient encore reculé de 10% depuis début 2016. Son concurrent, l'officiel des spectacles, fait à peine mieux en écoulant 34 000 exemplaires. Songez, Sonia, que ces journaux vendaient jusqu'au milieu des années 90 plus de 300 000 numéros par semaine. Pour vous donner une idée, 500 000 Parisiens allaient au cinéma chaque semaine à l'époque.
C'est ça qui fait rêver plutôt, 500 000 Parisiens dans les salles de cinéma.
Chaque semaine.
Voilà, chaque semaine. Pariscope publia aussi, pendant longtemps, un petit cahier rédactionnel, on l'a un peu oublié.
Ouais, Daniel Filipacchi adorait la presse américaine et plus particulièrement la presse urbaine qui explosa à New York dans les années 60 et 70.
C'était Time Out ?
Time Out, Village Voice, ouais, et ça. Quelques autres. Il avait d'abord acheté un petit titre, La Semaine de Paris, qu'il avait transformé en vitrine de Pariscope. Billets d'humeur, chroniques, nouvelles boutiques, critiques de livres et de disques alimentaient une vingtaine de pages assez snob. Le petit format imposait des articles courts, un ton incisif, ce qui était tout à fait nouveau dans la presse française à l'époque. Bourré de pubs, y compris sur la une, Pariscope fut longtemps une vache à lait pour Philippe Aki. L'écran est venu plus tard, les pages rédactionnelles ont fini par être l'ombre d'elles-mêmes. Le titre a été vendu en 2014 au groupe Red World, qui vient d'annoncer le licenciement des 4 derniers salariés.
Voilà, et puis c'est un souvenir personnel pour vous, Jean.
Oui, Sonia. Philippe Aki croyait tellement à la presse urbaine qu'il avait lancé un titre concurrent à l'intérieur même de son groupe, 7 à Paris, un news urbain au ton plus décalé que Pariscope.
Voilà, 7 à Paris, 7, c'était le numéro 7. Hein.
C'était le numéro 7, le chiffre 7. J'en ai été le dernier rédacteur en chef après Alain Kruger. Pariscope voulait piquer nos sujets, on lorgnait sur leur cagnotte. Ils étaient très riches. La mort dans l'âme, Philippe Aki a fermé 7 à Paris en 1993. Pariscope fut longtemps sauvé par ses profits. 20 ans plus tard, la messe est dite.
Voilà, la messe est dite. Bye bye, Pariscope.
Sonia De Villers, l'instant M.
Alors Fabien Youn, Youn c'est un pseudo, c'est une partie de votre nom de taekwondo que vous pratiquiez en France hein, quand vous étiez petit, enfin depuis l'enfance. Voilà. Vous en êtes ceinture noire. En rejoignant la Corée par amour de votre art martial, vous êtes passé de ça. À ça. Voilà, si vous êtes pas en train de nous regarder en direct sur le site franceinter.fr en vidéo, donc sachez que Fabien Youn est mort de rire. Alors nous, on rigole beaucoup parce qu'on ne comprend pas. Vous, vous rigolez parce que vous comprenez. Alors qu'est-ce qu'on appelle une drama ou un drama? Un drama en Corée, qu'est-ce que c'est?
Un drama, donc c'est une série donc télévisée coréenne. Mm-hmm. Donc généralement, c'est entre 15 et 20 épisodes d'une heure. Et qui sont diffusés généralement deux fois par semaine. Donc il y a le drama du lundi-mardi, celui du mercredi-jeudi, le drama du week-end. Et on différencie aussi les dramas matinaux, donc qui sont plus regardés par un public, on va dire, les femmes au foyer, les personnes, on va dire, qui ne travaillent pas. Et les dramas du soir, donc en prime time, donc en Corée, le prime time, c'est 23h, parce qu'on finit très tard le travail. Donc les dramas en prime time, donc qui sont diffusés donc, de 23h à minuit, ou de 22h à 23h.
Ah c'est ça, 23h c'est le prime time.
C'est ça.
Donc les émissions de cuisine dont on va parler hein, dans un instant qui cartonnent, qui sont à 21h, c'est des access prime time en fait, à 21h.
Exactement.
C'est d'accord, très bien. Alors donc là on a vu que vous êtes devenu comédien, en plus d'être ceinture noire de taekwondo, et qu'en plus vous parlez parfaitement coréen. Comment s'est déroulé cet apprentissage? Parce que ça n'a pas dû être une mince affaire.
Non, ça a été... En fait j'ai appris la langue vraiment... naturellement presque, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait, donc je suis passionné par la Corée depuis que je suis tout petit. Et donc le fait d'aller en Corée, déjà j'avais vraiment envie de d'apprendre les bases de la langue, histoire de juste par politesse déjà, parce que quand on habite dans un pays étranger, quand on visite un pays étranger, parce que la première fois que je suis allé, donc j'étais donc en voyage en Corée, j'avais décidé d'apprendre les bases, donc bonjour, merci, commander un plat dans un restaurant, commander un café. Et au fur et à mesure donc que je suis resté en Corée, j'ai décidé de prendre des cours à l'université tout d'abord. Donc je prenais les cours du matin, donc c'était assez intensif, c'était 4 heures de cours le matin plus du travail personnel l'après-midi. Et ensuite cette langue, ça m'a toujours attiré. En fait, c'est la sonorité, c'est très, vous avez bien entendu dans l'extrait, c'est très chantant, c'est beaucoup de sonorités. Et pour moi, même si je comprenais, finalement avant, je comprenais rien du tout, j'aimais beaucoup la musique coréenne, donc la K-pop. Et pour moi, c'était toujours, ça a toujours été un rêve de pouvoir parler une langue asiatique.
Vous voulez qu'on en écoute un petit peu de K-pop?
Pourquoi pas?
Allez, un petit peu de K-pop. Oh. Voilà, hyper formaté, ça c'est de la reprise.
Vous avez passé un extrait de K-pop, mais la moitié des paroles sont en anglais.
Et oui, c'est de la reprise, mais on voulait quand même donner quelques repères à nos auditeurs qui ne soient totalement noyés. Alors, il y a eu un vrai accélérateur de notoriété pour vous, c'est la télé-réalité. Un programme, quand j'en ai entendu parler, je me suis dit, c'est tellement tiré par les cheveux, comment avait-on pu y penser ?
Non, pas de télé-réalité du tout.
C'est pas de la télé-réalité ?
C'est pas de la télé-réalité.
C'est quoi alors ?
Donc, c'est un reportage que j'ai fait, qui tournait la vie de plusieurs personnalités de la télévision. Donc il y avait trois acteurs, un chanteur de K-pop, un présentateur télé et deux musiciens.
Ouais.
Et donc, en fait, la culture coréenne veut qu'on habite jamais tout seul, en fait. Donc on habite chez ses parents avant le mariage et ensuite, après le mariage, on habite avec sa femme. Et donc c'est très rare d'avoir des hommes qui habitent seuls. Donc et l'émission, en fait, c'était le principe de l'émission, c'était de montrer un petit peu comment les hommes se débrouillaient tout seuls, parce que
vous appelez pas ça de la télé-réalité, un petit peu, s'en est inspiré.
C'est pas de la télé-réalité, c'est pas de la télé-réalité dans le sens où on était vraiment, enfin c'est quelque chose qui fait partie de notre vie en tant qu'acteur. Ils ont filmé ça vraiment sous forme de documentaire, donc on expliquait
D'accord.
pourquoi on faisait les Coréens ont vraiment regardé ce programme avec c'est la raison qui a fait que c'est devenu vraiment une émission très populaire, c'est que les Coréens étaient vraiment
médusés,
intéressés
donc ils voyaient en fait de jeunes hommes vivre seuls, faire leur ménage, aller acheter à manger, cuisiner, vivre au quotidien, s'organiser,
c'est une sorte de documentaire sur la vie, quoi, en fait.
Bon, alors vous avez donc petit à petit appris le coréen, vous avez compris les usages, les raffinements culturels de ce pays, de cette langue et puis de ses coutumes. Et puis aujourd'hui, à la télé, on vous entend aussi présenter des émissions de cuisine.
Ah, 재료는 되게 간단해요. 삼겹살, 고추장, 양송이 버섯, 양파, 망울토마토, 그냥 일반 파스타. 페두치니? 페두치니. 자, 시작해볼까요, 이제? 먼저, 면을 삶아야죠. 일단, 끓이는 물에다가, 오일 조금 넣고, 소금, 조금 넣고,
Je crois que c'est une recette de pâtes.
ce sont des pâtes au samgyeopsal. Donc samgyeopsal, c'est le porc grillé coréen. Et gochujang, donc c'est la sauce épicée, donc la pâte de piment coréenne. Donc j'étais un espèce de mix. Le concept de l'émission, c'était un petit peu de mixer la cuisine française, occidentale, avec la cuisine coréenne. Donc
d'où
là,
le
c'est...
bonjour au milieu.
D'où le bonjour, toujours placer un ou deux mots de notre belle langue française.
C'est vrai ? Vous placez toujours un mot de français.
J'essaye
dans les
de placer
coréennes.
Toujours soit une référence, soit un mot, soit une citation. Enfin, j'essaye toujours de placer quelque chose.
Voilà, alors racontez-nous, avant on va parler de vos émissions, mais d'abord racontez-nous ce que vous qualifiez vous-même dans le livre qui sort aux éditions du Chêne, de l'ère du cookbang.
Cookbang. Alors, cookbang, donc c'est cook, donc en anglais.
La cuisine.
La cuisine. Et bang, donc en coréen, bangsong, c'est tout ce qui est broadcasting, donc télévision.
D'accord, les programmes,
voilà,
les émissions.
Voilà, programmes de télévision. Okay. Et donc c'est un néologisme, en fait, c'est un diminutif des deux termes. Et en fait, ça regroupe toutes les émissions de cuisine. Et c'est un phénomène donc, qui est apparu en Corée depuis, je dirais, environ 2 ans. Il y a une multiplication des émissions de cuisine quasiment du jour au lendemain. Et les Coréens sont devenus fous, complètement fous des émissions de cuisine.
Mais vous dites carrément les chefs à la télévision ont plus de succès, font plus d'audience que stars de la K-pop, qui est donc cette musique ultra commerciale qu'on a entendue tout à l'heure et qui est une musique que... Alors là, pour le coup, c'est un phénomène industriel et de société. Là, vous dites aujourd'hui, c'est les chefs.
C'est les chefs. On va dire, c'est un public différent.
Ouais.
Mais sachant que la télé est très, très regardée en Corée du Sud donc, et que ces chefs, il suffit de tourner la télévision. Enfin, la dernière fois, j'étais à mon club de sport. Donc, vous savez, il y a toutes les machines
pour faire du sport,
courir,
pour s'entraîner, pour
qui
courir.
Sont alignées. Donc, il y en a une dizaine. Et les 10 télés étaient allumées. Et je crois qu'il y avait 6 ou 7 programmes différents de cuisine au même, au même moment.
Et quelle heure alors ?
Et il était, c'était des rediffusions. C'était le matin. Mais moi, j'étais sur le côté, je regardais ça et je fais, mais. Et toutes les émissions ont leur particularité. C'est pas que des émissions, on va dire, où ils apprennent à cuisiner. Il y en a, c'est
Alors cuisiner. Alors vous en racontez une qui s'appelle Demande au frigo, comment on dit en coréen.
Voilà. Naengjango butake.
Merci de l'avoir dit à ma place. Donc ce sont des stars qui apportent leurs restes, y compris des produits périmés, et c'est un chef qui doit se débrouiller pour en faire un plat, un menu, c'est ça?
Exactement. Ils apportent en fait leur frigo.
Oui.
Donc sur le plateau.
À leur frigo.
Voilà, ouais. Ils apportent leur plateau, leur vrai frigo. Donc l'équipe de production vient dans votre appartement chercher le frigo, votre frigo. Oui. On n'a pas le droit d'y toucher. Donc ceux qui sont, donc sachant qu'il y a souvent des acteurs et qui sont rarement chez eux, donc des fois il y a des œufs périmés ou alors il y a des du poulet qu'ils ont acheté il y a 6 mois, donc qui est en décomposition totale. Donc c'est ça qui est drôle. Et donc les chefs qui sont sur le plateau, donc ont pour but 15 minutes pour faire. Donc l'invité choisit. Annonce un petit peu ce qu'il aime, le plat qu'il aimerait avoir. Et donc, deux chefs, donc ils ont 15 minutes pour faire, donc pour utiliser les ingrédients qui sont dans le frigo.
Alors,
pour
on
faire
ne
un plat.
Cuisine pas tout à fait au hasard en Corée, on s'en doute. Mmh. Donc, je l'ai dit, dans votre livre, il y a tout un tas de recettes. Alors, comme ça, on peut découvrir, je les prends comme ça au hasard, hein, une croquette de mozzarella et de citrouille, des courgettes panées, des kimchi de navet découpés en cubes, du chou fermenté coréen.
Kimchi.
Et puis, il y a aussi tous ces petits textes. Vous racontez comment vous avez assimilé les usages liés à la nourriture et au repas. Mmh. Vous dites que la cuisine repose sur les 5 éléments. Oui. C'est-à-dire des couleurs qui se complètent pour former une sorte d'harmonie.
Exactement. Donc en fait, en coréen, on appelle ça eumyeongoheng. Mm-hmm. Donc c'est, vous savez, c'est comme le yin et le yang. Donc c'est une balance. Et dans la nourriture, il y a aussi cette notion des cinq éléments. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans le plat bibimbap, qui est sûrement l'un des plats les plus connus de la cuisine coréenne. Donc c'est le riz mélangé avec généralement 5 ou 6 légumes, plus de la viande. Et les couleurs sont très importantes. La nourriture française aussi, c'est pareil, c'est très important d'avoir... Le visuel est quand même très important. Et la nourriture coréenne, c'est pareil. Et donc, dans ce plat de bibimbap, il faut bien mettre les couleurs. Donc, il y a du jaune, il y a du vert, il y a du noir. Donc, c'est pas exactement du noir, parce que bon, il n'y a pas d'aliments qui sont vraiment noirs, c'est du marron. Mais c'est toujours dans cet esprit-là, donc de faire... si on a cette balance des couleurs, on va avoir une balance à l'intérieur donc de son corps, donc
une
sorte d'équilibre, et donc forcément être en bonne santé.
Voilà, alors c'est aux éditions du Chêne, c'est la cuisine coréenne de Fabien Youn, c'est très joli et ça donne envie. Merci d'être venu à Paris,
merci de m'avoir invité,
d'être passé sur France Inter.